Vous écoutez, on lit pour vous.
Une mutation génétique expliquerait un risque accru chez les Québécois. Un texte de Chloé Bourquin, paru le 20 mai 2026 dans la presse. Des chercheurs montréalais ont découvert qu'une mutation habituellement rare était plus fréquente chez les Québécois qui développent un cancer du pancréas. Sur le long terme, ils espèrent faciliter le dépistage de ce cancer particulièrement agressif. Les résultats de cette étude menée par des chercheurs de l'Université McGill et de l'Université de Montréal ont été publiés récemment dans la revue scientifique Journal of Medical Genetics. La mutation qu'ils ont étudiée date d'environ 300 ans. Elle a probablement été amenée par les colons français au XVIIe siècle, puis est devenue de plus en plus fréquente dans la population au fil des générations. Cette mutation est causée par un gène sauteur, soit un gros morceau d'ADN capable de s'insérer ailleurs dans le génome. En particulier, ce gène peut sauter sur le gène ATM et perturber son fonctionnement. Or, celui-ci joue un peu le rôle de police. C'est lui qu'on appelle lorsqu'il y a de l'ADN qui est brisé quelque part et qui indique aux protéines où aller pour le réparer. Illustre, en entrevue avec la presse, le professeur William Fulk, qui a participé à cette étude. Mais une fois que le gène sauteur s'insère dans le gène ATM, les appels à la police ne passent plus, poursuit ce professeur au département de médecine, d'oncologie et de génétique humaine de l'Université McGill. Les brisures dans l'ADN s'accumulent sans être réparées, ce qui augmente le risque de cancer, en particulier du pancréas. Chez les Québécois d'origine française, atteints de cancer du pancréas, les chercheurs ont constaté que cette mutation était présente dans environ 2 % des cas contre 0,15 % chez les personnes non atteintes. Ce gène pourrait aussi un peu contribuer au cancer du sein, mais dans une moindre mesure, précise le chercheur. Un cancer encore difficile à traiter. Le cancer du pancréas est encore relativement peu fréquent, mais de plus en plus de personnes reçoivent un diagnostic au fil des ans. Selon le Registre québécois du cancer, environ 1 800 personnes reçoivent un diagnostic chaque année au Québec, soit le double des cas enregistrés autour des années 2000. Et ce cancer reste encore aujourd'hui l'un des plus difficiles à traiter. Moins d'une personne sur 8 survit 5 ans après le diagnostic. Les causes du cancer du pancréas sont difficiles à cerner, mais on estime que la génétique pourrait expliquer environ 10 % des cas, selon le chercheur William Fulk. Or, au Québec, puisqu'une grande partie des gens descendent d'un nombre restreint de colons, il est assez facile de mettre le doigt sur les quelques mutations qui peuvent être à l'origine d'un grand nombre de cancers. C'est ce qu'on appelle des mutations fondatrices, comme celle-ci. William Fulk espère qu'à terme, un test génétique ciblant ces quelques mutations fondatrices pourra être mis sur pied afin de mieux cibler les personnes particulièrement susceptibles de développer certains cancers, pour les surveiller plus étroitement et leur permettre d'accéder à des programmes de dépistage précoce. Si l'on comprend mieux pourquoi les gens tombent malades et développent ce cancer, peut-être que l'on pourra trouver une meilleure façon de les traiter, espère-t-il. C'était une mutation génétique expliquerait un risque accru chez des Québécois, un texte de Chloé Bourquin, paru le 20 mai 2026 dans la presse.
Un Montréalais fait le tour de l'île à pied pour ramasser des déchets. Un texte de Henri Ouellette-Vézina paru le 21 avril 2026 dans la presse. Depuis plusieurs jours, Jimmy Vigneux fait le tour de Montréal à pied pour ramasser les déchets qu'il trouve sur son chemin. Constatant de près la saleté des rues, il espère inciter les citoyens à changer leur comportement pour faire de la métropole une ville plus propre. Chaque printemps, tout le monde est un peu outré de constater à quel point Montréal est sale. C'est vrai, mais arrêtons d'attendre que la ville ramasse. Tout le monde peut faire une différence dès maintenant, lance le principal intéressé que nous rejoignons dans le secteur Pierrefonds-Roxboro. Le combat de M. Vigneault pour l'environnement ne date pas d'hier. Dès 2018, il a cofondé l'organisme Mission 1000 tonnes, qui organise des collectes de déchets un peu partout dans la province. En 8 ans, ses équipes ont déjà ramassé 750 tonnes de déchets aux 4 coins du Québec. Mais depuis quelques jours, le père de famille s'est donné une mission plus personnelle, marcher dans toute l'île de Montréal en longeant les berges et y ramasser un maximum de déchets. Chaque jour, de 9h à 17h, il est à l'œuvre. Le soir, il dort dans des hôtels pour repartir rapidement le lendemain. Parti du Vieux-Montréal le vendredi 17 avril 2026, l'homme de 43 ans planifie de terminer ce périple de 140 km au même endroit en une semaine. Le public est d'ailleurs invité à le rejoindre pour terminer le parcours du pont Jacques-Cartier jusqu'au quai de l'Horloge. J'aimerais ça que cette ville se nettoie juste avec ses citoyens et que l'école bleue, ils puissent patcher les nids de poules à la place, dit Jimmy Vigneux. On peut tous faire des actions à la hauteur de nos capacités. Si on est 2 millions à ramasser les déchets, ne serait-ce qu'un peu, le changement sera incroyable, ajoute-t-il. Pas un cas unique. Sur les réseaux sociaux, le Montréalais partage quotidiennement son aventure et celle d'autres citoyens limitants. Le tout s'inscrit dans le cadre du Plogathon 2026 de la mission 1000 tonnes, une opération invitant les citoyens à marcher à leur tour dans la métropole pour la nettoyer. L'idée est de cultiver tranquillement la mobilisation de la population, affirme M. Vigneux. Il dit constater que depuis la pandémie et la guerre en Ukraine, l'environnement a été relégué au second plan. Je veux que les gens se mettent en action, dit M. Vigneux, qu'ils sortent voir les déchets, puis qu'au final, ils réduisent leur consommation de plastique à usage unique. Des cafés Tim Hortons, je dois en avoir ramassé 500 depuis que je suis parti, c'est incroyable. Son message ne pourrait pas tomber plus à point. Mardi, la mairesse de Montréal, Soraya Martinez-Ferrada, a appelé tous les citoyens à se joindre à l'effort collectif pour nettoyer les rues. Il faut que tout le monde prenne un petit balai et ramasse un peu devant chez eux. Ça irait plus rapidement. Ce n'est pas parce qu'on paye des taxes qu'on ne peut pas contribuer, a-t-elle martelé. Elle réagissait ainsi à un reportage de la presse paru plus tôt dans la journée qui révélait que le grand ménage du printemps était loin d'être terminé à Montréal. 3 semaines après le début officiel du nettoyage, plusieurs arrondissements n'ont même pas fait le quart du travail. Résultat, les déchets jonchent les rues et des citoyens s'impatientent. Rien pour aider la situation, une grève de 3 jours d'école bleue, la semaine dernière, a ralenti les opérations de nettoyage des rues. La convention collective des 6000 écoles bleues de la ville est échue depuis le 31 décembre 2024 et des négociations sont toujours en cours. Une vague de solidarité. Depuis quelques jours, de plus en plus de gens s'arrêtent pour saluer Jimmy Vigneux dans la rue, le remercier ou encore l'aider un peu. J'adore ça, mais après, il faut passer à l'action. Tout le monde est sur son cellulaire, on met des j'aime, on partage, on félicite ce genre d'initiative, mais il faut sortir dehors et agir, insiste le quadragénaire. Pour payer l'hébergement et se nourrir, M. Vigneux a déjà amassé plus de 600 $ grâce à une campagne de sociofinancement. Avis aux intéressés, Mission 1000 tonnes mène également chaque année l'expédition Saint-Laurent pour nettoyer les berges du fleuve. Avec un autobus, des citoyens traversent plusieurs régions et tiennent des activités de sensibilisation. Le tout est prévu au mois d'août 2026. C'était « Un Montréalais fait le tour de l'île à pied pour ramasser des déchets », un texte de Henri Ouellette-Vézina, paru le 21 avril 2026 dans la presse.
Le cancer de stade 0, un diagnostic peu courant qu'il faut connaître. un texte de Daryl Austin, paru le 17 avril 2026 dans National Geographic. Vous avez probablement déjà entendu parler des quatre stades du cancer, mais il existe un stade encore antérieur qui, selon des spécialistes, pourrait changer la donne dans le traitement de la maladie. Si nous avons pour la plupart déjà entendu parler des cancers de stade 1, 2, 3 et surtout 4, le plus sinistre, beaucoup ignorent qu'il existe également un stade encore plus précoce, le stade 0. Il y a peu encore, c'était le cas de Tina Knowles, mère de la chanteuse Beyoncé, qui a révélé dans ses nouveaux mémoires qu'on lui avait diagnostiqué un cancer du sein. Dans une interview portant sur l'importance de se faire dépister tôt et souvent, elle a reconnu ceci. « J'ignorais qu'il existait un stade zéro. J'aurais pu détecter cela à ce stade si je n'avais pas manqué ma mammographie. » Il n'est pas surprenant que Tina Knowles n'ait jamais entendu parler du stade zéro, car on ne le diagnostique pas aussi fréquemment que les autres stades du cancer. De plus, pour de nombreux types de cancers, il n'est pas détectable et porte souvent un autre nom. Voici ce qu'est un cancer de stade zéro, ce qui le distingue des autres types et pourquoi les dépistages réguliers sont probablement la seule façon de le détecter. Combien existe-t-il de stades du cancer? On considère généralement qu'il existe 4 stades du cancer. Bien qu'il puisse parfois être relativement compliqué de distinguer ces stades, on les détermine le plus souvent grâce à la classification TNM, tumeur ganglion lymphatique métastase. Une méthode de diagnostic que suivent les oncologues pour identifier la taille et l'emplacement d'une tumeur et savoir combien les cellules cancéreuses se sont propagées à travers le corps. Au stade 1, pour la plupart des cancers, une excroissance cellulaire maligne, que l'on appelle tumeur, a été identifiée, mais demeure de taille modeste et reste confinée dans l'organe où elle est apparue. Ce stade se caractérise notamment par le fait que bien que ces cellules soient invasives à l'intérieur d'un organe donné, elles ne se sont pas propagées aux ganglions lymphatiques, ainsi que le rappelle Hatem Soliman, oncologue spécialiste de la poitrine, officiant au Centre d'oncologie Moffitt à Tampa, en Floride. Cela a son importance, car les ganglions lymphatiques sont présents à plus de 800 points de convergence des vaisseaux sanguins majeurs dans l'ensemble du corps. L'identification d'un cancer sur n'importe lequel de ces points signifie que celui-ci a nécessairement dû s'échapper de son emplacement originel pour arriver là. Pour un cancer de stade 2, la tumeur principale a suffisamment grossi pour correspondre à certains critères de taille qui varient selon les types de cancers. Lorsque celui-ci est atteint, cela veut dire que l'on a découvert des cellules dans des ganglions lymphatiques voisins. Un cancer de stade 3 est plus avancé, car la tumeur principale a dépassé les critères de taille définis pour le stade 2 et les cellules cancéreuses se propagent à davantage de ganglions lymphatiques. Un cancer de stade 4, qu'on appelle souvent cancer métastatique, est le signe que la tumeur a encore grossi et que le cancer s'est propagé à de nombreux autres ganglions lymphatiques ainsi qu'à d'autres parties du corps et qu'il a souvent envahi des organes vitaux,
ainsi que l'indique Elena Ratner, médecin et gynécologue-oncologue au Centre d'oncologie Yale dans le Connecticut. Cette propagation généralisée rend la maladie beaucoup plus difficile à contenir ou à éradiquer. En quoi le cancer de stade zéro diffère-t-il? Le cancer de stade zéro diffère des autres stades en ceci que des cellules anormales ont été identifiées quelque part dans le corps, mais que celles-ci ne sont pas encore forcément cancéreuses. Et contrairement aux cellules cancéreuses du stade 1, elles n'envahissent pas même les tissus voisins de l'organe dont elles proviennent. Ces cellules anormales sont généralement trop petites pour former une tumeur. Ainsi, elles ne peuvent généralement pas être détectées par des examens d'imagerie interne comme l'échographie ou l'IRM. On peut aussi en découvrir sur des tissus externes et l'on en identifie souvent dans le tissu mammaire grâce aux mammographies de routine. Le cancer de stade zéro est parfois appelé carcinome in situ, car in situ signifie sur place en latin. On attache parfois également un préfixe pour indiquer où se trouvent les cellules préoccupantes. Ou, par exemple, d'adénocarcinome in situ, un nom qui renvoie aux glandes touchées de l'utérus, des poumons ou du tube digestif. Qu'est-ce que le cancer du sein de stade zéro ou CCIS? Lorsqu'un cancer de stade zéro est détecté dans le tissu mammaire, on parle de carcinome canalaire in situ, ou CCIS, canalaire se rapportant ici aux canaux galactophores présents dans la poitrine. Le CCIS ne devient un cancer de stade 1, 2, 3 ou 4 que lorsqu'il traverse les canaux galactophores et commence à se propager, explique Meira Golshan, directeur médical adjoint des services chirurgicaux au Centre d'oncologie Yale et à l'hôpital oncologique Smilow dans le Connecticut. Mais cela ne survient pas systématiquement. Tous les cancers du sein de stade zéro ne deviennent pas invasifs, précise-t-il. Mais avec le temps, certains, si. Pourquoi un diagnostic précoce est important? Comme le cancer de stade zéro peut évoluer de manière imprévisible, parfois des mois, voire des années, après la découverte initiale des cellules anormales, les patients doivent être suivis de près afin de s'assurer que cette zone ne devienne pas cancéreuse, explique Sima Iqbal, médecin et oncologue spécialiste de gastro-entérologie au Centre d'oncologie intégrée de l'Université de Californie du Sud à Los Angeles. Parfois, observe-t-elle, médecins et patients décident de ne pas attendre, de voir et choisissent de cibler les cellules anormales au moyen de radiations localisées ou par le biais d'interventions chirurgicales. Si les traitements préventifs comme ceux-là ne sont pas idéaux, ils sont largement préférés à une situation où le cancer ne serait découvert qu'après s'être propagé et avoir causé des dégâts à plusieurs organes et systèmes à travers le corps, chose qui nécessiterait davantage de traitements invasifs tels que la chimiothérapie. Pour cette raison, la Société américaine du cancer, ACS, recommande aux femmes de commencer à se faire dépister pour le cancer du col de l'utérus à partir de 25 ans et entre 40 et 45 ans pour le cancer du sein. L'organisation suggère également un dépistage du cancer colorectal pour toute personne à partir de l'âge de 45 ans. Un dépistage du cancer de la prostate pour certains hommes à partir de 45 ans. Et pour les personnes qui fument ou qui ont des antécédents familiaux de cancer, de se faire dépister avant. Quand il est identifié et traité grâce à un dépistage précoce, le cancer du sein de stade zéro permet un taux de survie avoisinant les 99 % rassure Mera Goldschan. Elena Ratner abonde en ce sens. Médecins et patients ont beaucoup de chance si le cancer est identifié au stade zéro, car c'est bien plus facile à soigner, explique-t-elle. C'est de loin le stade de cancer le plus favorable et celui avec le meilleur pronostic. C'était le cancer de stade zéro, un diagnostic peu courant qu'il faut connaître. Un texte de Daryl Austin, paru le 17 avril 2026 dans National Geographic.
Des oiseaux en quête de mégots de cigarettes pour leur nid. Un texte de Pierre Gingras paru le 10 mai 2026 dans la presse. Certains oiseaux en milieu urbain, très éloignés les uns des autres, par exemple en Angleterre, en Pologne, en Nouvelle-Zélande, en Australie, dans les îles Galapagos ou encore à Mexico, utilisent des mégots de cigarettes lors de la construction de leur nid. C'est surtout le filtre usagé qui est recherché. Dans certains cas, une fois effilochée, la matière soyeuse sert de revêtement au fond du nid. Étonnamment, les chercheurs ont constaté au fil des années que la santé des oisillons élevés dans des nids contenant des mégots était nettement meilleure que celle de leurs congénères nés dans des nids sans reliquats de cigarettes et que le succès de la nichée était plus grand. Le phénomène s'expliquerait en partie par la présence de nicotine dans le filtre, un produit antiparasitaire connu. La présence de parasites dans le nid étant réduite, le taux de survie est plus élevé. Les résultats d'une étude menée en Pologne et publiée ce printemps indiquent en effet que les mégots de cigarettes ont un impact négatif sur plusieurs parasites du nid. Une autre recherche réalisée il y a quelques années à Mexico a aussi démontré que si l'on augmentait artificiellement le nombre de parasites dans des nids contenant déjà des mégots, les oiseaux allaient en cueillir davantage pour mieux protéger la nichée. Par ailleurs, en Angleterre, certaines mésanges bleues ont même tendance à faire leur nid dans les cendriers disposés sur la voie publique. Chercheuse à l'Université du Connecticut, Lorraine Perez Beauchamp, travaille depuis plusieurs années sur la grave menace que représente la mouche vampire pour les 17 espèces de pinsons de Darwin des îles Galapagos, les géopyses de leur nom scientifique. Les larves de la mouche boivent littéralement le sang des oisillons qui sont ainsi condamnés. Plusieurs études sur l'utilisation des mégots par certaines espèces de pinsons y ont été menées dans le village de Puerto Velasco Ibarra, sur l'île Floreana. Dans un courriel, elle explique toutefois qu'il y a tellement de composés chimiques dans le tabac qu'on ignore encore si c'est spécifiquement la nicotine ou une combinaison avec un autre composé qui tue les parasites. Une arme à deux tranchants. Si l'usage des mégots s'avère salutaire à court terme, cela ne semble pas le cas sur une très longue période, ont démontré par ailleurs des écologistes de l'Université nationale autonome du Mexique, notamment chez le moineau domestique et le roselin familier. En effet, leurs analyses ont mis au jour des dérèglements génétiques chez les oisillons et les parents responsables de la couvaison, ce qui laisse présager une issue dramatique de l'usage des mégots à long terme, indique pour sa part le chercheur Louis Lefebvre, professeur émérite à l'Université McGill, une sommité dans le domaine de l'innovation chez les oiseaux. L'innovation est un facteur d'adaptation important chez les oiseaux face à leur habitat. Mais dans certains cas, l'expérience novatrice peut être fatale, rappelle le professeur Lefebvre. Par exemple, un oiseau pourrait s'étouffer et mourir en tentant d'avaler une proie nouvelle. Mais les cas d'innovation positive sont nombreux, notamment en milieu urbain où les oiseaux doivent s'adapter à un environnement qui n'est pas naturel. Dans ce domaine, le moineau domestique se distingue. Louis Lefebvre cite le cas d'un individu en Nouvelle-Zélande qui avait découvert que passer devant un œil magique lui permettait d'ouvrir les portes d'une cafétéria et d'y ramasser les miettes de pain sur le plancher, ou encore celui de ces moineaux qui inspectaient à l'époque les grilles de radiateurs d'auto pour y cueillir des insectes. C'est justement cette aptitude à l'innovation des pinsons de Darwin. Certains géospies utilisent un bout de bois pour déloger des insectes, qui a amené les chercheurs travaillant aux Galapagos à offrir aux pinsons des tampons d'ouate ou de coton, cotton ball, imprégnés d'un insecticide inoffensif pour les oiseaux afin qu'ils puissent s'en servir. Les pinsons ont répondu positivement à l'expérience et les résultats sur les nichés ont été excellents. Le hic, c'est que la solution est pratiquement impossible à appliquer à grande échelle. Auteur de l'ouvrage « Tête de linotte sur l'intelligence des oiseaux », Louis Lefebvre indique que ce ne sont pas tous les oiseaux d'une même espèce qui ont des aptitudes identiques à l'innovation. Il ajoute qu'on ignore toujours aussi comment a pu s'établir le lien entre les propriétés insecticides des mégots de cigarettes et les oiseaux. Cela reste un mystère, lance-t-il. On sait que certains oiseaux utilisent des végétaux odorants dans leur nid et que ces plantes ont un effet répulsif chez les parasites. C'est le cas de l'étourneau sans sonnet ou encore de la mésange bleue qui tapisse parfois son nid de lavande. Il faut rappeler que chez bon nombre d'oiseaux, l'odorat est relativement limité. C'était « Des oiseaux en quête de mégots de cigarettes pour leur nid », un texte de Pierre Gingras paru le 10 mai 2026 dans la presse.